Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 15 octobre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin juste sous les 112 000 dollars, un Ether sous les 4100. Pour l'instant, ils peinent à retrouver leur marque et on a même le BNB qui a enfin trouvé son top potentiellement autour de 1300, voire un petit peu plus, en recul de 8% sur la semaine. On est toujours dans le rouge quasi pour l'intégralité de ce top 25, voire même c'est le cas, avec des moins 20% encore, hein, poursuit pour Avalanche, pour Polkadot. Après, on a Tao, BitTensor et Zcash à la 25-26e place, 4,4 milliards de capitalisation qui, eux, sont en pleine bourre, 38% et 98% pour Zcash. Donc la remontada est vraiment express pour ce truc, puisqu'on est à 426% sur 30 jours. Donc un changement qui est assez extraordinaire d'un seul coup. Je ne sais pas si ça va tenir, bien entendu, mais voilà, c'est quand même à noter. Quand on remonte jusqu'au top 30-40, on a même encore des moins 30 en hebdo. C'est assez dramatique pour le coup, c'est le cas de Aptos. On a moins 28 pour Story, moins 21 pour ICP, moins 15 pour VeChain et Atom Cosmos, 3,43$. Lui, vu ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il va s'en remettre d'avoir quasiment touché le zéro du côté de Binance. C'est plus une crise de confiance. Par la suite, qui irait mettre son argent là-dessus? C'est plus ça. 19% de recul pour Caspa et Pudgy Penguins, malgré des performances légères dans le vert sur les dernières 24 heures. Et on clôture le top 60 avec Official Trump et le Paxos Gold autour de 1,26 milliard de capitalisation. Paxos Gold d'ailleurs qui lui est à 4200$ l'once, puisque le gold en ce moment est lui-même en pleine poussée, ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête pas, on ne sait pas jusqu'où peut aller le gold. Voilà, tout le monde veut du gold, on voit que sur les dernières semaines et les derniers mois, ça a été vraiment l'actif de prédilection le plus porteur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait discuté quelques fois autour de l'automne fin d'année 2024, et où on esquissait cette théorie un peu de se dire, ok, si on prend des profits là à compter de décembre 2024 et courant 2025, s'il venait à y avoir une all-season, sur quoi on pourrait aller se réfugier au-delà des bons vieux stablecoins adossés au dollar ou adossés à l'euro? Eh bien, il y avait tous les métaux précieux. Et effectivement, quelqu'un qui aurait converti autour de décembre ses altcoins, quand ils étaient très hauts pour le coup, du côté du Paxos Gold ou du Gold tout court, pour ceux qui n'ont pas peur de faire la conversion, notamment en physique, ou qui ont des règles législatives ou fiscales beaucoup plus souples parfois qu'en France, eh bien vous aviez la possibilité en effet de vous mettre très très bien, puisque par la suite le gold n'a eu de cesse de monter, tandis que les cryptos, elles, nous ont pas donné ce qu'on escomptait, en tout cas pour l'instant. Quand on regarde le 4 heures au niveau de Bitcoin, on travaille longuement les 110-112. J'espère vivement que ce qu'on a ici à l'écran va se transformer en W, c'est-à-dire double creux, double point bas, et qu'on repart à l'assaut par la suite des 120 à 125K. Si on franchit à la baisse, eh bien on sera aspiré de nouveau pour aller retester la mèche basse ici, autour basiquement des 100 à 102 000$. Donc on est un peu sur ce statu quo. On est aussi mi-octobre, donc je vous la fais très courte. Pour ceux qui jouent encore le cycle de 4 ans, c'est maintenant ou jamais sur le mois roulant, et notamment pour les altes. Et pour autant, pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça se présente très très bien. Donc j'espère aussi que le gold ne va pas se mettre d'un seul coup à perdre des centaines de dollars, et pareil pour le S&P 500, puisque c'est là où je vois pas pourquoi, si d'un seul coup tout était vendu, hein, pour X ou Y raison, on l'a bien vu la dernière fois avec les tarifs Trump-Chine, eh bien on pourrait avoir les cryptos qui seraient impactés. Donc aujourd'hui, on a la sensation que petit à petit, il y a des sujets qui avancent, il y a certains conflits qui sont en train de s'apaiser, et j'espère vivement, dans un premier temps pour le point de vue humain et ensuite pour le point de vue financier, que tout ça va se calmer, bien entendu, peu importe où se trouvent les conflits sur la planète. Mais aujourd'hui, on a un marché qui est vraiment très très tendu, je pense que c'est le bon mot, et la volatilité le prouve, puisqu'on a le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité aux États-Unis, et on verra ça en fin d'émission au niveau de l'analyse technique, qui est en train pour sa part aussi de rebondir fortement, signe qui démontre que pour l'instant, les opérateurs commencent à ressentir justement la pression, et notamment sur le marché américain. Faisons place quelques instants à la collaboration commerciale du jour, notre sponsor Aster Dex, donc plateforme de DeFi, de trading spot et perpétuel, issue de la fusion d'Asterus et APX Finance, et c'est soutenu par Easy Labs Binance. Avec un TGE, c'est-à-dire un token qui est apparu le 17 septembre 2025, le lancement de Aster, on en a beaucoup beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, vous avez différents actifs qui sont disponibles, de la crypto aux actions US, du Apple, du Amazon, etc. et les tokens en pré-lancement. Vous avez plusieurs modes de trading trading avec une plateforme donc qui est à l'image de ce qu'on connaît aujourd'hui pour ceux qui font du trading. Vous avez les perpétuels avec un outil pro, un carnet d'ordre des données avancées, les leviers jusqu'à 300. Quand on voit ce qui s'est passé récemment, bien entendu, on déconseille fortement. Et vous avez jusqu'à x50 du côté des actions US. Bien entendu, vous avez également le spot ici. Donc, vous pouvez absolument faire ce que vous voulez et de façon totalement décentralisée. Également, pour ceux qui voient un peu les utilisations un peu plus poussées, vous avez la possibilité de mettre des ordres cachés en prix et en taille au niveau de vos ordres pour protéger tout ce qui est front running. Vous avez la possibilité de vous hedger, c'est-à-dire des positions longue et short en simultané, et bien entendu à partir du moment où le marché redevient directionnel, ça coupe la mauvaise position. Et donc aujourd'hui on est dans le stage 3 de Aster jusqu'au 17 novembre 2025. La possibilité de farmer des points RH avec volume temps PNL et referral en faisant des trades en perpétuel et en spot. Les prochaines étapes possibles seraient le lancement du layer 1 Aster Chain et un programme de buyback. Donc ils suivent bien entendu dans les traces de ce qui se passe sur Hyperliquid. C'est bon aujourd'hui d'avoir de la concurrence aussi, je suppose, puisque Hyperliquid est un peu sur son trône, si je puis dire ainsi, et on voit aussi passer beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on a un concurrent sérieux avec Aster et on continuera de suivre tout ça. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes utilisateur justement, que ça soit de Hyperliquid ou de Aster, et surtout lequel vous préférez après avoir potentiellement utilisé les deux. Je pense que c'est ça qui nous intéressera le plus et qui permettra de voir quel est le choix aujourd'hui de la communauté. Avec Journal du Coin, les entreprises cotées et les ETF détiennent désormais plus de 12% de l'offre totale de Bitcoin. Ça laisse quand même ça aussi se poser pas mal de questions, puisque bon, les ETF, c'est beaucoup de gens différents derrière, de particuliers, de très gros particuliers, d'entités, de professionnels, d'institutionnels. Mais d'un autre côté, petit à petit, on est en train de centraliser un énorme pourcentage de l'offre. Alors bien entendu, le point positif, c'est qu'au long terme, ça permet d'avoir des flux qui rentrent quasi de manière constante. Bien que hier et avant-hier, comme n'importe qui de normalement câblé, on a quand même eu des sorties plutôt virulentes du côté des ETF. Mais bon, on est quand même sur une dynamique, on le voit au niveau de l'histogramme, qui est très positive, donc ça c'est plutôt cool. On a Benjamin Cohen qui nous met en avant que Jérôme Powell aurait déclaré qu'ils approchent la fin de la contraction par rapport au fameux QT, donc le quantitative tightening. Il retire de la liquidité au marché et donc la fin de la contraction, avec peut-être par la suite une normalisation au niveau des marchés qui permettra d'avoir, en plus de la baisse des taux, on l'espère, plusieurs fois d'ici 2026, puisque là pour la fin d'année c'est pas gagné, mais entre fin d'année 2025 et fin d'année 2026, théoriquement on devrait avoir 2, 3, 4 baisses de taux qui permettraient d'avoir abaissé à minima d'un point entier, et ça je suppose que quand même les marchés en profiteront. À ceci près que actuellement on a les marchés qui sont toujours très hauts, on va continuer de le dire tant que ça sera le cas, et je me pose des questions le jour où le gold retracera, le S&P et tout ça. On a quand même un marché aujourd'hui qui certes est sous dopamine, mais qui prendra ses profits en bonne et due forme, comme on l'a déjà vu plusieurs fois là aussi par le passé, et notamment au moment d'avril 2025, quand il y a eu cette problématique qui est apparue d'un seul coup au niveau des tarifs de Trump. On voit que ça peut aller très vite. Le CEO de BlackRock, Larry Fink, vient de déclarer qu'ils sont en train de développer leur propre technologie au sujet des actifs tokenisés. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on avait théorisé sur la chaîne depuis pas mal de temps, sur le fait qu'à l'époque, quand on parlait notamment de la DeFi, je vous disais, ok, AAV aujourd'hui, pourquoi il n'est pas plus pricé via son token que ce qu'il l'est par rapport à la TVL, par rapport à ce qu'il représente. Et ma seule crainte, c'était qu'un jour, on ait des BlackRock et consorts qui veulent utiliser leur propre solution maison. Et là, bon, c'est pas AAV que ça concerne, bien entendu, mais tous les produits de type Ondo, etc., est-ce que finalement, ils vont pas être boudés par les institutionnels? Et là, on parle de BlackRock, je veux dire, c'est l'éléphant suprême, on peut pas passer à côté, c'est soit eux qui vont faire la pluie et le beau temps sur le marché institutionnel. Donc ça laisse quand même se poser pas mal de de questions. Et je pense que le postulat qu'on avait émis il y a quelques années voilà, commence à révéler un peu des cartes qui vont dans le sens de ce qu'on avait esquissé. Tino Bourse, au niveau du S&P 500, j'ai trouvé ça très intéressant, cette projection de se dire bah, pour 2026, est-ce qu'on rentre vraiment en turbo-bulle et on va à bah, 7000, 7500, 8000 points sur le S&P 500 ou bien on va perdre ben, à minima 10-15 points et peut-être beaucoup plus hein, si on revenait ne serait-ce qu'autour de 4008 qu'on avait déjà tagué ici autour d'avril au moment des tarifs de Trump. Alors quand on a ce genre de mèche, je suppose que le marché nous fera un plancher un peu plus haut, peut-être autour de 5500 points, mais vous voyez que quand on vient de 7007, quand on touchait des doigts quasiment les 7000 points, eh bien ça fait quand même un recul majeur pour un indice et c'est ce qui fait que potentiellement en 2026 ça pourrait déclencher aussi le bear market crypto et le tout au niveau des mid-termes qui apparaîtront en novembre 2026. Donc pour moi, si je devais timer aujourd'hui le scénario mauvais entre guillemets, parce qu'après si on rentre en bulle c'est pareil, on aura un blow off top, donc je suppose que 2026 quand bien même on viendrait chercher l'excès de bulle, ce qui nous permettrait nous du côté des cryptos potentiellement d'avoir enfin notre excès qu'on n'a pas eu là maintenant, donc ça serait plutôt en soi ce à quoi on a matière à s'attendre en règle générale. Mais si derrière le marché prend un peu un contre-pied un peu plus tôt et qu'il n'y a pas l'excès de bulle du côté du S&P 500, je pense que l'apogée du marché baissier entre guillemets, parce que pareil on ne sait pas comment ça va se passer à l'avance, mais pourrait connaître son terme autour justement de ce mid-term de Trump, donc entre octobre et décembre 2026. Et c'est là où nous, pour 2026, si jamais on voit que ça commence à se gâter sur le marché crypto et que le Bitcoin commence à reculer sous les 100 000, etc., et à dérouler, ça nous permettra comme ça, sur un an de temps, potentiellement de automne fin d'année 2025 à automne fin d'année 2026, de faire notre petit DCA et d'être realigné parfaitement pour le cycle d'après, entre guillemets, de nouveau, parce que, comme on le dit souvent, on ne sait pas si ce cycle va perdurer. Kyungju avec les bitcoins papier qui désormais sont underwater, comme il le dit, sont sous l'eau. Donc ça aussi, je voulais revenir là-dessus, sur notamment les leviers. J'ai vu un truc hier et ça m'a un peu ouvert l'esprit, c'est que les particuliers désormais sont hautement leverage, donc beaucoup utilisent les leviers. Pourquoi ? Premièrement, ils se sont fait rincer. Deuxièmement, ils ont beaucoup perdu sur des FTX, des Terra Luna, etc. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'essayer de se refaire et c'est exactement ce qui vient de se passer là avec les 19 milliards qui se sont fait liquider, 1,6 million de traders liquidés. Donc c'est vraiment des drames humains au-delà des drames financiers. Et aujourd'hui, Kyungju mettait en avant une note d'attaque que j'ai pas encore partagée aujourd'hui sur Twitter sur le fait que les leviers représentent à peu près 2 000 $ en moyenne comparativement à un an, deux ans, trois ans en arrière où on était plutôt sur du 6 000. Donc on a divisé par 3 le pool qui est engagé notamment par les particuliers du côté des leviers. Donc pour résumer le truc, ils ont beaucoup moins d'argent à investir, ils se sont fait complètement rect et ils prennent de plus en plus de risques pour compenser le fait qu'ils mettent moins d'argent sur la table, et c'est ce qui crée des décalages complètement monstres comme on a eu récemment. Donc une fois de plus, je ne peux que vous inviter à rester sur le spot, à accumuler vos précieuses petites poussières de Bitcoin, vos précieuses petites poussières de Ether pour ceux qui veulent prendre un tout petit peu plus de risques aussi. Et on a vu que sur ce cycle, bon, Ether, c'était pas très payant, ça sera peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas, au long terme, faites très très attention à ceux qui font des leviers. On a encore eu l'exemple hein, avec Monsieur Rabbit qui a perdu, je crois, 300 000 $ alors qu'il avait un levier à peine en x2 et il a suffi d'une mèche de moins 50% du côté de Binance et d'autres échangeurs pour complètement lui faire perdre tout son argent. Bitcoin qui a reculé de 326 millions et Ether 428 millions, donc au niveau des ETF, c'était il y a 48 heures, donc désormais. ChatGPT qui pulvérise tous les records d'adoption technologique. Internet pour l'année 3, c'était 20 millions d'utilisateurs. ChatGPT pour l'année 3, c'est 800 millions d'utilisateurs. Donc là, pour le coup, l'IA, on comprend pourquoi hein, il y a cet engouement et pourquoi Nvidia est en train de faire l'autodisperseur, l'arrosoir au niveau des liquidités. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Nvidia qui désormais est à 4 600 milliards, tandis que le gold est à quasiment 30 000. Je pense qu'en étant à 4 200 $ désormais, puisque la capture a été faite à 4 100, on s'approche des 30 000 milliards pour le gold. On est tout petit avec notre Bitcoin à 2 300, Amazon à 2 300, Silver à 2 800, Alphabet, Google quasi 3 000, Apple 3 600, Microsoft 3 800 et Nvidia donc 4 600 milliards. Aujourd'hui, on a des compagnies, vous rendez compte, comme Nvidia qui pèse deux fois le poids du BTC, qui pèse plus que le crypto total dans sa totalité, vu qu'en ce moment on est autour de 4 000 milliards. Donc bon, ça laisse là aussi se poser pas mal de questions pour la suite, de si à un horizon de temps de 5 ou 10 ans, on venait à stagner à 5 000, 6 000, 8 000 milliards et que tout continue d'aller justement dans les stocks comme ça, d'IA, de data center ou de technologie autre que la blockchain et la crypto. Voilà, c'est aussi un risque qui peut se matérialiser aujourd'hui. On est vraiment sur ce point pivot pour la blockchain qui a désormais une existence depuis plus de 15 ans au travers de Bitcoin. L'or qui atteint donc pour la première fois les 4 100, voire les 4 200, c'est plus 150% depuis son point bas de l'automne 2022, quasi plus 300%. Donc x4 depuis l'été 2016. Lors des précédents bullruns, le métal précieux s'était apprécié dans les années 70 de plus 2 400%. Il était rentré en range par la suite pendant 20-25 ans. Donc inutile de dire que bon, le gold, c'est par moment qu'il faut être vraiment dedans pour profiter de la perf. Ceci étant dit, le reste du temps, il ne perd pas trop d'argent, donc c'est déjà ça. Et avant de proposer donc une nouvelle envolée en 2011 au niveau du top de plus 665%, la consolidation d'après avait duré de 2013 à 2019 et ensuite, voilà, l'histoire actuelle, vous la connaissez, donc c'est assez extraordinaire. On avait une exclue The Big Whale avec Grégory Raymond. Amundi se lance enfin dans le Bitcoin. Après avoir longtemps observé l'ouragan BlackRock de loin, le géant européen de la gestion d'actifs franchit le pas. Donc on aura les premiers ETN Bitcoin pour début 2026 et des personnes commencent à se poser la question, vu que ça sera Amundi et coté en euros, est-ce qu'on va pas pouvoir le fourrer dans un PEA? Ça serait une excellente nouvelle de pouvoir avoir du Bitcoin dans un PEA, mais je pense que d'un point de vue de ce que représente aujourd'hui le PEA, ça sera très difficile de faire passer la dragée d'un point de vue législatif et réglementaire. Donc dans tous les cas, vous pourrez le mettre sur un compte titre ordinaire, pas de souci de ce côté-là. Les US qui continuent d'être pour 64% du total de la répartition de l'equity market, donc les actions, et on voit qu'on est tout petit après le reste du monde. Donc Other, je ne sais pas ce que représente le Other justement, mais bon, c'est le reste du monde justement, l'Inde, etc. On a le Japon 5%, la Chine de 3%. Imaginez un peu le délire d'un point de vue boursier d'avoir une contrée comme la Chine qui est gigantesque avec autant de monde, autant de flux quelque part, autant de valeur qui est créée. Alors bon, c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ça, bon, peu importe les considérations, mais aujourd'hui, se dire que le marché action, c'est 3% dans le monde comparativement aux 64% des États-Unis, voilà, on comprend pourquoi les gens investissent et continuent d'investir aux States. L'Angleterre, 3%, à équivalence avec la Chine, c'est là où c'est fou, et la France, 2%, donc on n'est pas malgré tout tout petit sur la scène internationale. Enfin, on pèse un peu plus que certains autres dans le game, mais quand on voit par rapport au reste, c'est sûr qu'on reste tout petit. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, la partition est comme s'y suit, et c'est ce qui aussi fait que bah, je pense que la plupart des investisseurs continueront d'investir sur les États-Unis. Tout simplement, c'est le moteur de l'économie et de la finance mondiale. On ne peut que le voir au travers de cette infographie. Un post un peu hors sujet au niveau de la finance, c'est des faits. Donc un de nos membres Discord qui est taxi vient de franchir avec une Tesla Model 3 grande autonomie de 2021 les 400 000 km. Il a changé les pneus tous les 80 000 et les disques et plaquettes, et il y en a qui ne comprennent pas comment c'est possible, sont encore neufs d'origine à 400 000. Pourquoi ? Puisqu'il y a un frein qui freine tout simplement à votre place quand vous levez la pédale. C'est ce qu'on appelle la conduite one pedal sur les véhicules électriques. Et donc, c'est un frein qui est intégré directement au moteur et qui va permettre de ralentir le véhicule sans que vous n'ayez à jamais touché la pédale de frein qui, elle, active le véritable frein avec le pincement des plaquettes sur les disques, etc. Ce qui fait que pour quelqu'un qui conduit à la cool, qui n'est pas sans arrière en train de faire j'accélère, je freine. Au bout de 400 000, vous avez les freins et plaquettes disques qui sont complètement neufs. Et donc, on a essayé de chiffrer avec les IA le coût d'entretien, le coût de, énergétique, puisqu'on est sur du 10 euros pour 400 km là, en recharge domestique. Et donc, cette personne, au bout de 400 000 km, en 4 ans de taxi, ça lui sera revenu autour de 15 000 euros l'utilisation plus les pneus. On a pris à peu près du 900 à 1000 euros pour 4 pneus tous les 80 000 km. Tandis qu'une thermique, en prenant juste les révisions et les consommables et l'essence, avec un prix de l'essence actuel, donc autour de 1,7-1,8 euros, eh bien, on était autour de 78 000 euros. Donc, vous faites le calcul 15 000 par rapport à 78 000. Vous pouvez rembourser, par exemple, intégralement, au bout de 4 ans, le prix d'une Tesla Model Y. Donc, avec les amortissements qui sont favorables, etc., je ne comprends toujours pas aujourd'hui, mis à part peut-être pour des considérations de confort ou de choix personnel d'un taxiteur, pourquoi il n'y a pas plus de taxis qui conduisent des véhicules électriques aujourd'hui. En tout cas, sur un plan amortissement financier, comptable, entrepreneurial, c'est le truc, le banger absolu qui finira par rendre le taxiteur beaucoup plus riche, en tout cas sur le papier, au bout de quelques années, que son homologue au niveau de la thermique. On terminera avec deux petites infos. Donc, Zone Bourse qui titrait il y a 48 heures que Donald Trump ressort son bâton et la carotte avec la guerre commerciale sino-américaine. Ça, pareil, un coup ça dit blanc, un coup ça dit noir. Donc, je pense qu'on est encore bon pour quelques temps et qu'à la fin, ils finiront dans tous les cas par se taper dans la main et trouver un accord. Et également, le Others, donc, qui est la capitalisation des altcoins qui exclut le top 10, qui a connu une chute de 50% en une heure de temps lors du crack de la nuit du 10 octobre. Un rebond qui est proche de 78%, mais ça laisse se poser beaucoup de questions quant aux capitalisations réelles et aux liquidités disponibles sur bon nombre d'altcoins et de paires. La dernière fois que ce Others avait reculé de moins 50, c'était suite au top de décembre 2024. C'était une baisse qui en tout avait duré 17-18 semaines et pour atteindre le pic de moins 50%, on avait pris 9 semaines. Là, on parle de une heure de temps. Imaginez le délire. Il y a vraiment eu un gros problème. Donc aujourd'hui, on a les marchés qui réagissent de manière extrême. Tout le monde se rue sur n'importe quel actif à quasi n'importe quel prix. C'est un comportement qu'on voit dans la crypto, mais également dans la finance traditionnelle au niveau des actions, avec les buy the dip sans arrêt depuis 2020, de personnages qui ont connu les marchés qu'à compter de 2020 et qui aujourd'hui croient que ça va faire que monter ad vitam. On est vraiment dans cette, pas fuite en avant, mais dans cette suraction. Et on voit que, bah, en tout cas au niveau des cryptos, les particuliers prennent de plus en plus de risques pour compenser le fait qu'ils ont de moins en moins d'argent à investir. N'oublions pas également que les marchés traditionnels restent hauts et que ceux qui jouent le cycle timing de 4 ans côté crypto en est en plein désormais dans les clous, soit d'une phase haussière parabolique finale. Ça n'a pas l'air de se présenter, en tout cas tout de suite, soit une pré-phase de bear market, donc de phase baissière prolongée. Ceci étant dit, depuis 15 ans, le Bitcoin n'a connu que de la hausse et donc au long terme, en réalité, il n'a vraiment pas connu de bear market prolongé de plusieurs années. C'est aussi à noter. 112 400, donc on est pile poil sur le support ici quand on regarde en journalier, statu quo. J'espère vivement qu'on va défendre cette zone, que le MACD va recroiser d'ici la fin de la semaine et que la seconde quinzaine d'octobre se passera bien. Si jamais on franchit, eh bien on déroule. On aura le dernier recours 9800, bien entendu, mais on aura un appel aussi qui, potentiellement, si vraiment ça se gâte, eh bien, voilà, une fois qu'on a franchi les 98, on voit qu'on a quelques mèches ici qui avaient travaillé à 90, ensuite on passe à 88, et ensuite, bah, c'est les points bas du printemps, autour de 75-76. Donc vraiment, là, on est en train de jouer un peu nos miches, hein, pour le coup. On est en train de jouer notre va-tout automnal, et j'espère vivement qu'on ne va pas se faire punir, parce que ça aura été un cycle vraiment très compliqué pour le coup, bien plus compliqué qu'à l'époque en 2021 ou 2017-2018 quand tout montait de façon complètement frénétique et où le marché était beaucoup moins dilué. Pourquoi il montait autant précédemment? Puisque notamment en 2017, il y avait, je sais pas, 300 coins qui se baladaient en duel et quand il y avait un nouveau truc qui sortait, tout le monde allait dessus, tout le monde prenait de l'argent. C'était un peu la fête au village tous les 4 matins. Donc aujourd'hui, on est dans un mood de diamétralement opposé à ça. 3800 milliards, on a réintégré notre box après avoir nettoyé tout le monde, pour ne pas dire purifié dans les eaux sombres du Gange, tous nos wallets. Et bon, on est dans cette attente de voir aussi si on n'a pas d'autres cadavres qui vont ressortir exactement comme à chaque fois qu'il y a un événement traumatique. Le Crypto Total 2, pareil, c'est pas super bien orienté. On est en train de croiser au niveau du MACD. La dominance qui, pour l'instant, bloque autour de 59-60. On a la dominance des stablecoins qui, elle, n'a pas dit son dernier mot et qui a l'air de vouloir partir au nord, pour le coup. Si ça, ça monte, pour rappel, ça veut dire que le reste du marché, en général, s'est mis à baisser. Donc, c'est un peu les deux valeurs refuge, et Bitcoin et les stablecoins, désormais, pour le marché crypto. Ether, il est à 4100, donc on est sur support, pas de problème tant qu'on repasse pas dessous. La dernière fois, on a nettoyé jusque sous les 3005. Si jamais on ne tient pas le support des 4100, ça sera certainement pour repartir en direction des 2008 à 3000. On a un autre support à 2150, un autre autour 2008, et ensuite la phase la plus baissière que nous avions connue sur ce cycle qui nous avait ramené travailler les zones de 2022 ici, voire 2021 et précédemment 2018, autour du gros support long terme des 1400$ pour Ether. Donc là, pareil, on peut toujours se dire qu'on est dans un bull flag, mais c'est maintenant, c'est la deuxième quinzaine d'octobre et c'est pas dans 36 ans. Donc si le marché crypto doit se réveiller, c'est sous quinzaine. Si ça passe pas là sur cette quinzaine, franchement, derrière, je pense qu'il faudra fermer les écoutilles. Comme on l'a vu tout à l'heure, le gold qui continue, donc on est désormais sur 305% depuis le point bas précédent. Donc que dire de plus? On ne sait pas jusqu'où ça peut monter dans ces cas-là. Hein. Vous avez un exemple typique de quand un actif rentre en bull run et que tout le monde en veut à n'importe quel prix. Le MACD, que ça soit en hebdomadaire, en mensuel, etc., il est hors sol par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Donc voilà, on est collé très très haut, 85 de RSI. En mensuel, c'est pareil. Et désormais, seul le temps fera l'affaire. Seul peut-être aussi, une fois que le monde se détendra un petit peu et aura moins l'impression qu'on va tous vivre dans un bunker avec nos métaux précieux et nos petites boîtes de haricots en conserve ou la bouffe lyophilisée. Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi aujourd'hui le gold est entré à ce point dans un bullrun séculaire, mais c'est vrai que ça laisse se poser des questions sur ce qu'il se passe derrière véritablement au niveau des intentions. On a le DXY, le dollar américain, 98.8, donc pour l'instant il est cloqué à cette zone. On a les taux 5 ans, 10 ans, 20 ans, 2 ans, 30 ans, peu importe, qui reculent. Donc quand même, il y avait des trucs à jouer aussi. Hein. On en avait discuté pareil sur la chaîne précédemment. Quand on est revenu il n'y a pas si longtemps, autour de mi-juin, fin juin, autour de 5% pour le 30 ans notamment, je vous disais, ça devient intéressant pour ceux qui veulent jouer les obligations. Déjà, vous avez un rendement qui est assuré pour les 30 prochaines années à 5 points, donc c'est quand même assez énorme. Et si le pourcentage de votre obligation baisse ici, eh bien, vous allez avoir une obligation qui, elle, au niveau de son prix, monte, puisque des gens vont vouloir payer plus cher votre obligation, puisqu'on vous a assuré un rendement de 5% pour 30 années. Et aujourd'hui, bien entendu, le best-of qui puisse nous arriver, c'est qu'on fasse comme on a fait à l'époque ici. Bon, on ne perdra pas peut-être de 5 points à 1 point, comme on l'a fait au moment du crack Covid, mais ne serait-ce que revenir dans toute cette zone de travail qu'on a connue précédemment entre 2% et autour de 3-3.5, vous voyez qu'on a quand même beaucoup à dérouler et ça vous fait du cash immédiat. Donc ensuite, soit vous gardez votre cash immédiat et vous vous dites pendant 5 ans, pendant 10 ans, je touche mes 5 points et ensuite de toute façon, je pourrai revendre mes obligations à bon compte, soit vous revendez immédiatement et vous actez une énorme plus-value. Donc il y a toujours des trucs à jouer, hein. Vous voyez, il n'y a pas que les actions, les cryptos ou tout ce qui s'ensuit ou les ETF. Du côté obligataire aussi, quand on est bien aligné comme actuellement, qu'on avait des taux longs très hauts et qu'on pense que normalement, quand les taux directeurs vont être baissés, bah, les taux courts et longs doivent baisser aussi en simultané, eh bien, ça peut être aussi un risque qui est bon à prendre. Comme d'habitude, ça représente un risque, bien entendu, c'est pas de l'argent gratuit, si ce n'est que bah, celui qui a sécurisé ses bons au trésor à 5 points, il les aura tous les ans, ces 5 points, donc ça n'est pas rien dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Et voilà, j'essaie de vous donner donner un tout petit peu de profondeur autour de ça. Je ne suis pas encore un expert de l'obligataire, bien loin de là. Je découvre aussi ce monde-là en même temps que vous et j'essaie de vous faire comme d'habitude mes retours de constats et d'expériences en simultané pour vous aider aussi dans votre propre réflexion de comment vous pouvez construire petit à petit votre patrimoine. Au niveau des métaux précieux, on a le cuivre qui a rebondi également, le platine qui nous fait une petite poussée additionnelle, le palladium qui a bel et bien franchi la zone de travail de la dernière fois autour de 1004, on est quasiment à 1006, donc là aussi, ben voilà. Personnellement, je ne suis pas rentré, hein, comme je vous disais la dernière fois, je vous ai donné l'information parce que ça me semblait, et notamment en amont ici, quand on était encore autour de 1002, peut-être 1003, d'un point de vue technique, chartiste, ça devenait intéressant, mais ce n'est pas pour autant que je saute sur absolument tout ce qui bouge. Même le gold, je suis sorti beaucoup, beaucoup trop tôt de ce que j'avais pris précédemment. Donc bon, l'essentiel, c'est de sortir, hein, comme on dit, mais voilà, ça sert aussi d'expérience. On a le silver qui a franchi son ATH et qui désormais en découverte de prix. Pareil, on a un RSI Hebdo qui est autour de 88, le MACD en pleine bourre. Donc bon, c'est pas le moment sur lequel se ruer, bien entendu, sur le silver. On avait un point de mars 2020 autour de 11,58 $ pour l'argent, donc c'est complètement fou. Le WPEA pour le World, donc qui nous fait des petits yo-yo ici autour du point haut, donc les 6 € qui ont été défendus. Et le CW8, ça devait correspondre peu ou prou autour de 600 €, puisqu'on avait fait 601, 602. Et là aussi, ben, les oscillateurs, petit à petit, bon, ça nous dit pas qu'on est en pleine bourre, hein, sur les mondes, sur les ETF mondes. Et c'est un petit peu ce qui m'embête pour cette fin d'année, c'est si les indices, notamment le S&P, vient de nous gâcher la fête. J'espère vivement que ça ne va pas arriver immédiatement, mais on voit que petit à petit, on commence à avoir un peu des appels contre appels et que le MACD est mûr à point aussi pour croiser bien haut. Au niveau des Treasury Company, on a AltBG pour la France qui est en train de continuer de se faire pulvériser par rapport à ses points hauts. On voit au niveau des histogrammes ici que c'est en train de ralentir en hebdo, mais on est encore loin d'un point de bottom, malheureusement. On est désormais de mèche à mèche sur quasi moins 88%. Alors, Capital B qu'on peut mettre dans un PEA, mais Capital B qui, pour l'instant, est en train de ruiner tous ceux qui sont rentrés dans la phase verticale. Au niveau des Américaines, on a Bitfarms qui s'est affranchi des 3,30 $. On a quasi 6 $. Là, pareil, c'est un peu trop tard pour rentrer, bien entendu. Fallait rentrer au double point bas à 70 centimes. Donc, le truc est parti comme une fusée. On a TerraWolf également, très, très bullish pour le coup. Pareil, je ne suis pas rentré dans ce truc. Il me restait des poussières de Coinbase et quelques bricoles. Mais aujourd'hui, comme je le défends sur la chaîne, et c'est exactement ce que je joue de mon côté, c'est que j'attends tout simplement d'avoir des prix qui sont beaucoup, beaucoup plus attractifs. Et c'est vrai que quand je vois AltBG à moins 88, d'un point de vue technique, voilà, une fois qu'on va attendre que le couteau se soit planté par terre, qu'on ait un double creux, etc., là, ça pourra devenir intéressant, si ce n'est que, bah, il va falloir vérifier que la société n'est pas en train de crever, mais ça, c'est une autre question. MicroStrategy, 300 $ qui est en train de passer presque sous le support ici, donc comme l'a mis en avant Bob Lucas, voilà, c'est un peu le moment ou jamais aussi de se rattraper, puisqu'on a un MACD qui est quand même assez bas, et qui, lui, par contre, pourrait croiser dans les prochaines semaines, donc peut-être que c'est la petite frayeur de revenir travailler autour de 240-250 $ pour MSTR, mais on n'aimera pas le voir se faire happer plus bas, puisque sinon c'est un retour sur le dessus de l'ancienne box ici à 200 $. On a un support à 140 et Dieu seul sait jusqu'où on peut dérouler en bear market, puisque précédemment, alors même qu'ils étaient à l'époque beaucoup moins exposés, on avait reculé de moins 90% sur le bear market précédent pour MicroStrategy. Marathon qui est en train de recoller une énième fois à cette zone des 20-23 $. Donc si ça passe, on pourrait viser les 32 à 35 $. Donc comme d'habitude, bon, j'ai pas super confiance dans tous ces trucs parce que ça a été très tortueux sur ce cycle et que c'est un business à part entière, les sociétés, les trésoreries, mais surtout la société de mining. Mara aujourd'hui fait partie des top leaders, si ce n'est le leader. Je sais jamais si c'est Mara ou si c'est un des deux autres avec Riot, etc. Mais je crois que c'est Marathon, hein, qui a les reins les plus solides par rapport au minage. On a Canaan également hier qui nous a poussé un petit plus 18, quasi 20%. Longue période de travail à 70-80 centimes, on a 1,80 $ et on a une énorme zone de polarité ici en termes de résistance autour de 2,80 $ à 3 $. Donc on va voir, voire même un petit peu plus de 3 $. Le mouvement est déjà lancé. Est-ce qu'on a envie de rentrer en milieu plus de range ici, je sais pas trop, le RSI est déjà haut. On a certes beaucoup de volume qui rentre depuis 2-3 mois, mais voilà, comme d'habitude, entre les deals OTC, les investisseurs institutionnels, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas là-dessus, ça reste assez compliqué et du coup assez complexe et risqué pour nous, petits particuliers, de naviguer là-dessus. Côté actions américaines, il y en a une qui sortait du lot, c'était CleanSpark, pareil, fin de mouvement probable, avec un RSI très très haut ici, donc CLSK, on arrive sur le haut du range qui était à 25$, on est à 22, belle remontada également, et on voit que c'est un titre sur lequel s'échange énormément de volume depuis avril 2023, donc plus tard, pourquoi pas hein, venir ici chercher ce support, si on y revient, autour de 14-15$ pour CLSK, ça ferait une belle zone d'entrée pour le coup, pour un actif qui est en train de nous réaliser une épaule tête-épaule inversée, on l'a juste ici, pour une fois, elle n'est pas trop bancale et elle n'est pas trop, on va dire, quasimodo. C'est des trucs qu'on avait pu observer en 2022, notamment du côté de Nvidia, du côté de Meta, du côté de Netflix, au moment où elles avaient perdu des moins 75%, etc. Et derrière, on a eu de très, très belles poussées pour l'ensemble de ces actions américaines. Est-ce qu'on s'attarde aujourd'hui du côté des shitcoins slash altcoins? Je sais pas. Quand on regarde l'image de fond, je vous avouerai que ça me déprime. Je sais pas quoi dire aujourd'hui pour les alts, honnêtement. Moins on en a en portefeuille et mieux on peut se projeter, je suppose. C'est le seul, entre guillemets, conseil que je puisse légitimement vous donner, de ne pas avoir trop de lignes pour le coup et de ne pas vous perdre dans cet océan infini des alts. Je comprends aussi que ceux qui ont des petits capitaux ont envie de faire du levier, ont envie d'aller sur des trucs à 0.01 qui sont dans le top 5000 obscur ou sur des pump funds ou sur des meme coins pour essayer de démultiplier 100 balles ou 1000 balles et de faire le gros coup du siècle. Mais vous savez comme moi qu'aujourd'hui, en étant vraiment des plus conscients du risque que ça représente, c'est exactement comme pousser une pièce au casino. Et malheureusement, vous risquez d'épuiser tout votre capital avant d'avoir le vent qui tourne en votre faveur à jouer justement à ce type de casino. Donc, je continue de m'adresser pour ma part aux investisseurs long terme. Je comprends d'un côté ceux qui ont des rêves plein la tête et qui veulent tenter le tout pour le tout, mais ayez bien conscience que d'un point de vue purement statistique, malheureusement, la théorie des jeux joue contre vous au long terme et j'espère qu'on pourra faire bien prochainement un sondage un peu poussé de savoir pour ceux qui tradent activement, c'est-à-dire plusieurs positions par semaine depuis 2, 3, 4, voire plus, combien sont rentables au long terme au niveau du trading vraiment actif et combien sont soit flat, soit ont perdu beaucoup d'argent. Et je pense que la statistique sera parlante, de même que quand on observe le marché crypto de 4 ans en 4 ans, eh bien on voit que le recul des alts face à Bitcoin est assez important et peu importe les altcoins que l'on prend. Certes, d'un cycle sur l'autre, il y en a toujours quelques-uns qui pendant 2 ans, 4 ans tiennent la dragée haute face à BTC, mais souvent ça se inverse au niveau de cette proportionnalité. Sur le cycle encore d'après, les bons alts d'un cycle deviennent les mauvais ensuite et c'est très très rare d'avoir des altes comme ça qui arrivent à perdurer de 4 ans en 4 ans ou même de 2 ans en 2 ans. Et là aussi, le top 10 qui a tendance à évoluer énormément d'un cycle sur l'autre a tendance à nous le rappeler et à remettre les pendules à l'heure. Ne serait-ce que les trucs qui étaient là en 2017, aujourd'hui on les a pour l'immense majorité complètement oubliés. Et ça sera aussi le cas d'ici le cycle suivant pour les trucs de 2021, voire même pour les trucs de ce cycle, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose de porteur sur ce cycle. Donc voilà, aujourd'hui, le but n'est pas de déprimer les gens et de leur dire que tous les altcoins c'est de la merde ou qu'ils sont tous morts, mais c'est d'être clairvoyant sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et d'essayer de naviguer au mieux, nous en tant que petits planctons au milieu de cet océan de baleines déchaînées. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à Aster et on se retrouve donc d'ici ce week-end pour débriefer de cette petite semaine qui pour l'instant est une semaine un peu en demi-teinte et en rattrapage, en recovery de ce qui s'est passé autour de vendredi dernier, qui était quand même, je le rappelle, assez traumatique pour le marché des crypto-monnaies. Bonne journée et à ce week-end. Ciao, ciao.